Bonjour à tous. Je vous propose de commencer ce temps de partage par une lecture. Dans le livre du prophète Zacharie, on va lire le chapitre 4. C'est un chapitre qui n'est pas très long, donc on va le lire en entier. Bon, j'ai étalé toutes mes feuilles parce qu'en fait j'avais prévu quelque chose et puis il y a des choses qui ont changé ce matin en cours de route, donc je me suis mis des notes et des renvois. Donc, si je bifurque à des moments, ne vous inquiétez pas, on arrivera au but. Donc, Zacharie, chapitre 4. Je vais vérifier parce que je vois l'écran qui est éteint là-bas. Je me demandais si c'était juste celui-là, mais on va attendre. Je vais commencer la lecture. On rattrapera. Donc, Zacharie, chapitre 4, à partir du verset 1er. L'ange qui me parlait revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu ? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et puis, il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur ? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Je pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or ? » Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il dit, « Ce sont les 2 oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Voilà, ce chapitre nous décrit une des visions qu'a reçues le prophète Zacharie. Alors, au début de son livre, on a toute une série comme ça de visions qu'il a eues pendant la nuit. Il y en a 8 qui se succèdent. Celle-là, c'est la 5e. Et donc Zacharie, c'était un prêtre qui officiait après le retour d'exil du peuple d'Israël. Alors, ce prêtre Zacharie, à ne pas confondre avec celui du Nouveau Testament, le père de Jean-Baptiste, qui était prêtre aussi. Là, on est quelques siècles en arrière quand même. Donc il était vraisemblablement revenu d'exil avec une partie du peuple d'Israël lorsqu'il était jeune. Et puis, il a eu ce rôle de prêtre, et puis même devenir, quand on lit dans les autres livres, on voit qu'il était le chef de la famille sacerdotale, de sa famille de prêtres. Et c'est dans ce contexte-là, alors que le peuple a vécu pendant un certain temps déporté loin de Babylone, puis est rentré au pays, que Zacharie reçoit ses prophéties, ses visions. Et cette vision-là, qui complète un petit peu la précédente, vient apporter un encouragement à Zorobabel qui est en train de reconstruire le temple. Donc le temple avait été détruit lorsque Israël avait été envahi par différentes nations et il y avait des travaux de reconstruction qui avaient commencé déjà sous le règne du roi Cyrus, donc un roi babylonien. Et puis à cause de l'opposition des populations aux alentours, et d'un certain nombre de menaces qui pesaient sur Israël, les travaux avaient fini par s'arrêter. Et c'est qu'une vingtaine d'années plus tard que ces travaux ont repris sous le règne d'un nouveau roi babylonien, Darius, qui avait pacifié un petit peu tout son empire là. Et donc c'est à ce moment-là que Dieu confie cet oracle à Zacharie et lui dit, ben, là le travail de reconstruction que fait Zorobabel, cette fois-ci il ira jusqu'au bout. C'était un travail assez énorme, hein, de reconstruire le temple. Déjà parce que l'opposition n'avait pas vraiment cessé. Il y avait toujours ces peuples aux alentours qui continuaient de menacer Israël et de leur interdire, entre guillemets, de reconstruire leur temple. Et puis aussi parce que c'était une entreprise qui n'était pas forcément très, très. Qui pouvait être un peu démoralisante parce que les Israélites voyaient qu'ils ne reconstruisaient pas aussi grand que ça avait été du temps de Salomon. Ils étaient loin de toute la majesté, la gloire du temple. Là, lorsque Salomon avait construit ça, il y avait de l'or partout, c'était gigantesque, c'était impressionnant. Et là, c'était un petit peu en dessous. Mais lorsque l'ange la réveille Zacharie, il lui donne donc cette vision et il lui montre une image assez symbolique d'un chandelier avec cette lampe. On voit qu'au-dessus de ce chandelier, il y a un vase qui est rempli d'huile et qui sert de réserve pour toutes ces lampes. Et ce vase est lui-même alimenté par deux oliviers qui sont à côté. C'est une vision un petit peu, enfin, qui est très symbolique, qui en soi ne parle pas directement. Et d'ailleurs, Zacharie lui-même est un peu perdu lorsqu'il voit ça. Il lui dit à l'ange, mais ça veut dire quoi ce que je vois ? Je vois bien là les deux oliviers qui permettent d'alimenter en huile ce vase, ensuite ça alimente le chandelier, mais ça représente quoi tout ça ? C'est très abstrait. Alors, l'ange que Dieu a envoyé va l'aider dans l'interprétation. Il va lui donner la signification de toute cette symbolique. Ce n'est pas le cas de toutes les prophéties qu'on trouve dans la Bible, mais là l'ange accepte de donner des détails pour aider à mieux comprendre ce qui se passe. Parce que la prophétie, ce n'est pas une prophétie là, qui se rapporte à ce qui se passera dans quelques siècles plus tard, comme parfois lorsque certains ont reçu des prophéties par rapport à la venue de Jésus qui allait arriver que des siècles après eux. Le contenu de la prophétie est resté un petit peu obscur pour eux. Là, l'ange est en train d'apporter à Zacharie quelque chose qui était relatif à ce qu'ils étaient en train de vivre en ce moment même. La reconstruction du temple, elle était en cours et c'était important que le peuple d'Israël auquel Zacharie allait s'adresser, comprennent le message que Dieu était en train de leur donner. Donner une image que le peuple n'allait pas savoir interpréter, ça leur aurait pas été d'une grande utilité. Et l'ange insiste sur une chose importante, c'est que ce que traduit cette image, c'est l'importance de la puissance du Saint-Esprit qui agit dans ses serviteurs. Le chantier dans lequel se sont lancés Zorobabel et Josué, Zorobabel c'était le chef politique d'Israël, c'était un des descendants de David, et Josué c'était le grand prêtre à l'époque. Et donc ce chantier dans lequel ils se sont tous les deux lancés de reconstruction, il était quand même très important pour le peuple. Non seulement parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas un petit chantier quand même, même s'il n'était pas aussi grand que le temple de Salomon, ça restait quand même un gros édifice, quelque chose d'important dans la ville de Jérusalem et quelque chose aussi de très symbolique pour le peuple d'Israël. Le temple, c'était le lieu où résidait la présence de Dieu, c'était le lieu où tout le peuple d'Israël devait venir pour apporter des sacrifices. Il y avait quand même quelque chose de central dans le temple. Le temple était quelque chose de central pour la vie du peuple d'Israël et sans ce temple, le peuple a été perdu pendant des décennies. Et là, de voir le temple qui allait être reconstruit, c'était quelque chose de très très important symboliquement pour eux. Mais ça, construire un temple, voilà, ça demande beaucoup de travail. J'ai dit, il y avait toutes sortes de difficultés qui se dressaient devant eux. Déjà, il fallait déblayer toutes les ruines de ce qu'il y avait eu avant. Il fallait commencer à rebâtir, il fallait trouver toutes les ressources, les pierres, tout ce qu'il y avait besoin pour faire ça. Il fallait faire face aussi à l'ennemi qui voulait les empêcher de reconstruire. Quand on lit le livre de Néhémie, on voit que lorsqu'ils se sont attaqués à la muraille de Jérusalem pour la reconstruire, ben, il y avait tellement de menaces qu'ils étaient obligés de travailler d'une main et d'avoir leur arme à portée de main aussi. Ils étaient tous avec la truelle dans une main, mais l'épée à la ceinture. Il y avait des gardes qui étaient montés, etc., pour pas que le travail puisse être interrompu. Donc pour arriver à mener à bien un tel chantier, il fallait de la force, il fallait du courage, il fallait beaucoup de ressources. Et pourtant, Dieu prend un peu le contre-pied de tout ça en disant « Mais c'est pas par la puissance, c'est pas par la force que vous allez arriver à ça. La puissance que vous allez mettre, la force que vous allez déployer, toutes les ressources, l'argent que vous pourrez avoir pour essayer de construire ce temple, c'est pas ça qui va faire que le temple va arriver à être redressé. Ce qui va permettre à ce chantier d'arriver au bout, c'est mon esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » C'est ce que l'ange là communique à Zacharie. L'entreprise dans laquelle vous vous êtes lancé, elle réussira, mais pas parce que vous êtes les meilleurs, pas parce que vous avez les meilleurs maçons, les meilleurs tailleurs de pierre, pas parce que vous avez de très bons architectes. Non, cette entreprise, elle réussira parce que le Seigneur est derrière. C'est Dieu lui-même qui a envoyé ses serviteurs, qui a qualifié ses serviteurs pour arriver à accomplir le travail qu'il leur avait donné. C'est toute la signification de l'huile dans cette prophétie. Cette huile, c'est une image qu'on retrouve à beaucoup d'autres endroits dans la Bible, comme une image de l'Esprit de Dieu. Eh bien, là, c'est explicite dans ce passage-là. On voit toute l'importance de l'huile qui découle des oliviers jusque dans le vase et dans les lampes. Et l'ange insiste, c'est par mon esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui communique la force, la puissance nécessaire pour arriver à accomplir ses travaux, à construire ce nouveau temple. Et rien ne sert de se lancer dans toutes sortes de projets s'il n'y a pas cette puissance, s'il n'y a pas cette onction derrière. Dans la Bible, on voit que ce temple a été reconstruit à plusieurs reprises. Il y a eu la construction initiale du temple de Salomon, il y a eu la reconstruction là, par Zorobabel, il y a eu plus tard le temple d'Hérode. Mais peut-être même qu'il y a eu beaucoup d'autres tentatives entre-temps. Et ces autres tentatives ne sont même pas rapportées parce qu'elles n'ont pas dû pouvoir aboutir. Et pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas abouti? Parce que ce n'était pas le temps qu'avait décidé Dieu, ce n'était pas le plan que Dieu avait prévu à ce moment-là. Et que ceux qui se sont lancés dedans, se sont lancés un peu seuls. Et au bout d'un moment, les obstacles, les difficultés qu'ils ont rencontrées ont mis un terme au projet. Là, Zorobabel aurait pu se dire qu'il se lançait dans quelque chose sans savoir si au final il réussirait ou pas. Mais Dieu a voulu lui apporter cet encouragement, ce réconfort, de lui dire « Le projet que tu as choisi, le projet dans lequel tu es aujourd'hui, il ne vient pas de toi. T'inquiète pas, c'est un projet qui vient de Dieu. Et par mon esprit, parce que moi je vais te communiquer mon esprit, parce que moi je vais envoyer ma puissance, parce que je vais protéger ce projet et en prendre soin, alors le projet se concrétisera. » De la même manière, lorsque nous nous lançons dans toutes sortes de projets nous-mêmes, ce n'est pas nos propres qualités, ce n'est pas nos talents qui font que les projets auront de la valeur aux yeux de Dieu. Dans Philippiens au chapitre 2, au verset 13, Paul dit « C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui nous donne l'idée, c'est Dieu qui nous donne la volonté de nous lancer dans un projet, mais c'est aussi lui qui nous donne le faire, la capacité d'accomplir ce projet. S'il manque un des deux, ça ne pourra pas aller. Il faut que l'idée soit suscitée, que l'idée se présente et que derrière on ait la capacité de l'accomplir. Mais les deux viennent de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui regarde un peu quelles sont nos idées et puis se dit « Ah, lui il a une bonne idée, là je vais l'aider, celle-là elle est moins intéressante, il se débrouillera tout seul. » Non, c'est Dieu qui donne l'idée à la base. Même lorsque parfois, moi j'ai pensé à quelque chose, non, j'ai aucun mérite, les pensées que je peux avoir, les projets que je peux former, s'ils ont du sens devant Dieu, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui me les a inspirés. Lorsque j'apporte une prédication, si elle vous touche, ce n'est pas parce que j'ai été particulièrement intelligent, particulièrement clairvoyant dans ce que j'ai préparé, c'est parce que c'est Dieu qui a choisi d'utiliser ma bouche pour vous parler. Et j'en aurai aucun mérite. Paul, non seulement il l'a dit de cette manière aux Philippiens, mais il a même rappelé à plusieurs reprises que lui-même n'avait aucun mérite dans tout ce qu'il entreprenait. Pourtant, quand on voit aujourd'hui toutes les lettres que Paul a écrites, quand on voit tous les voyages qu'il a fait, comment il a évangélisé tout le pourtour méditerranéen, là, il a été en Asie, il a été jusqu'en Italie, il a évangélisé, bon, lui il n'a pas trop fait au pays d'Israël, mais après il a fait du côté de la Turquie, de la Grèce, tout en remontant comme ça jusqu'à Rome, et il dit pourtant, j'ai aucun mérite dans tout ce que j'ai fait là. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, au verset 10, il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Vous voyez, il dit « J'ai travaillé plus que tous », mais tout de suite il se reprend et dit « Non, enfin, c'est pas moi qui ai travaillé. C'est la grâce de Dieu qui a déployé encore plus d'efforts au travers de moi. C'est pas parce que j'ai fait plus d'efforts que j'ai été plus sérieux dans mon travail que les autres que j'ai eu plus de résultats. C'est parce que la grâce de Dieu a agi de cette manière en moi. Oui, lorsque l'Esprit de Dieu agit en nous, rien ne peut l'arrêter. Aucun obstacle ne sera trop haut pour être surmonté. Il n'y aura aucune puissance trop grande qui ne pourrait pas être renversée par cet Esprit de Dieu. La grande montagne là, qui se dresse devant Zorobabel, bon, ça peut représenter toutes sortes de choses, hein, suivant les commentateurs. Mais une chose est certaine, c'est que son sort, il est sans appel. Cette grande montagne sera aplanie par la puissance de l'Esprit Saint. Cette montagne, aussi haute soit-elle, aussi imposante soit-elle, elle ne pourra pas résister devant l'action de l'Esprit de Dieu. C'est une parole, moi, qui me rappelle aussi cette parole de Jésus lorsqu'il disait « Si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là », elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Pourquoi ? Parce que c'est pas notre peu de foi en soi qui a tellement de puissance, mais c'est parce que cette foi, elle est fondée en Christ, elle est fondée en Dieu et qu'elle est accompagnée de l'Esprit de Dieu. Cette foi, elle témoigne simplement de ce que l'Esprit nous communique. Et cette foi, non seulement elle proclame ce que l'Esprit va faire, mais ensuite elle se réjouit de voir que l'Esprit l'accomplit. Elle proclame que Dieu va déplacer cette montagne, et Dieu le fait, parce que c'est Dieu en premier qui a dit que cette montagne ne subsistera pas. Ésaïe, au chapitre 14, au verset 27, rapporte ces paroles en disant « L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera ? Sa main est étendue, qui la détournera ?» Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Valérie a fait allusion. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Personne. Lorsque Dieu a décidé quelque chose, on ne peut pas se mettre en travers. Lorsqu'un projet de Dieu est poussé par Dieu, rien ne peut arrêter ce projet. Et donc, l'ange continue en disant à Zacharie, « Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et elles l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. » L'ange insiste bien sur le fait que ce dont il parle lorsqu'il dit que c'est par sa puissance, par son esprit, c'est cette reconstruction du temple. Et lui indique même que vous verrez que c'est moi qui le fais parce que cette reconstruction ira jusqu'au bout. L'aboutissement de la construction, ça sera la preuve que c'était bien moi qui avais envoyé Zorobabel et que c'est bien moi qui ai parlé au travers de cette prophétie. Et il continue encore un petit peu après parce qu'il a déjà expliqué une partie de ce que représentait la vision, mais Zacharie reste encore un peu perplexe. Il dit, mais il y a encore une chose que tu ne m'as pas expliquée dans cette vision-là. C'est quoi les deux oliviers ? Et l'ange lui répond encore une fois, mais est-ce que tu ne comprends pas ? Parce que Zacharie, quand même, c'est un des sacrificateurs, c'est un des prêtres. Il est censé être quand même un de ceux qui enseignent Israël, mais il ne comprend pas cette vision. Alors l'ange lui explique cette fois-ci et lui dit, ces deux oliviers, ce sont les deux oints de l'Éternel. Les deux oints, c'est les deux personnes qui ont reçu l'onction, c'est-à-dire justement Zorobabel et Josué. C'est le représentant de la lignée royale et le représentant des prêtres, des sacrificateurs. Quelques siècles en arrière, alors qu'Israël n'avait pas encore été envahi et déporté, c'était les deux rôles qui recevaient vraiment cette onction particulière. Il y avait le roi, il y avait le grand sacrificateur, qu'on retrouve dans Zorobabel et dans Josué. Un qui avait ce rôle politique, un qui avait ce rôle plus spirituel, on va dire, mais les deux qui devaient être oints au nom du Seigneur. Et si on se projette un petit peu plus tard, il y en a un plus tard qui va rassembler ces deux offices en un seul, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est à la fois le roi et le souverain sacrificateur pour nous. Et lorsqu'on lit les évangiles, lorsqu'on lit ce que Christ disait, on voit que lui aussi avait un temple à construire. Lorsqu'il s'adresse à Pierre, dans Matthieu au chapitre 16, au verset 18, vous connaissez probablement ce verset presque par cœur, il dit « Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Christ, comme Zorobabel qui construisait le temple, il bâtit son église, son temple. Christ, il construit ce temple spirituel, et de la même manière que Zorobabel ne pouvait pas être arrêté, Christ ne peut pas l'être non plus. La construction de l'Église ne pourra jamais être arrêtée par qui que ce soit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui, derrière, conduit ça. Lorsque Jésus est rentré dans la synagogue à Nazareth et a fait la lecture du prophète Ésaïe, vous vous rappelez ce qu'il a dit ? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Jésus-Christ a été oint en premier de l'Esprit. Jésus-Christ a reçu cette onction de la même manière que Zorobabel ou Josué, mais d'une manière encore plus puissante, parce que l'onction qu'il a reçue, ce n'était pas simplement une goutte d'huile sur la tête, c'était vraiment l'onction de l'Esprit de Dieu. On l'a vu lors de son baptême, lorsque Jean-Baptiste l'a plongé dans l'eau et qu'il est ressorti, il nous a dit « le ciel s'est ouvert et l'Esprit Saint est descendu sur lui sous la forme d'une colombe ». Et Jésus-Christ a été rempli de l'Esprit d'une manière qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre ou imaginer nous-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le lien qu'il y a entre ces oliviers qui représentent les oints de l'Éternel et le reste, le vase et le chandelier. C'est qu'en fait, ces oints communiquent l'huile au vase et ensuite au chandelier. Et c'est ce qu'a fait Christ pour nous. Lorsqu'il s'adresse aux disciples avant de repartir, dans Actes au chapitre 1 et au début du verset 8, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Il leur annonce que le Saint-Esprit va venir. Mais quelque temps avant, dans Jean au chapitre 15 et au verset 26, il avait insisté sur le fait que c'est lui qui devait envoyer ce Saint-Esprit. Il dit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi ». Donc c'est Christ lui-même qui, après avoir reçu l'onction du Saint-Esprit, nous la communique et nous la transmet. Et cette église que Christ construit par la puissance de son Esprit, ben comme le temple, elle a commencé humblement. L'ange disait à Zacharie, ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront quand ils verront le niveau dans la main de Zorobabel, ou d'autres disent c'est la pierre d'étain. La traduction n'est pas forcément très, très claire, mais voilà, au début, ça a commencé faiblement. C'était un projet qui a commencé avec une certaine modestie, une certaine humilité, qui a été méprisé par beaucoup de monde, à commencer par tous les peuples voisins qui se moquaient d'Israël et qui disaient « mais les pierres ne tiendront même pas les unes sur les autres, tout va s'écrouler, ils n'iront jamais au bout ». La construction de l'Église, elle a commencé elle aussi de manière assez humble. Christ, il a choisi quoi ? Une douzaine d'hommes qui n'étaient pas spécialement plus érudits que les autres. Il ne les a pas choisis parmi les scribes, les pharisiens, parmi ceux qui étaient les plus éduqués. Il a choisi des pêcheurs, il a choisi un publicain. Il a choisi comme ça toutes sortes de profils qui étaient pour la plupart des gens de classe assez modeste, humble. Si vous voulez le détail, hein, n'oubliez pas de venir les mardis soirs, on n'a pas encore fini. Et avec ça, il a construit un édifice qui a grandi, et aujourd'hui qui est admirable quand on voit tout ce que représente l'Église dans le monde entier, le nombre de personnes que ça représente, l'impact que ça a pu avoir sur la société. C'est une façon de fonctionner de Dieu qui est, j'ai envie de dire, classique. Dieu démarre rarement avec les choses les plus grandes, les plus élevées, pour ensuite faire quelque chose derrière. Pourquoi ? Parce que s'il fait ça, la gloire elle reste sur ceux qu'il aurait choisi. Non, Dieu, en général, préfère choisir les choses les plus humbles, celles qui sont méprisées, pour en faire quelque chose de grandiose. Parce que dans ce cas-là, on sait très bien à qui reviendra la gloire, et c'est à lui seul. Lorsque Paul s'adresse aux Corinthiens, au chapitre 1, et dans les versets 26 à 29, il leur dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Si j'arrive devant Dieu en disant « Moi, je suis capable, moi, j'ai telle compétence et je vais pouvoir t'être utile », Dieu va dire non. Si c'est pour mettre en avant tes compétences, si c'est pour mettre en avant tes talents, ça ne sert à rien, parce que du coup, c'est pas moi qui en recevrai la gloire. Dieu préfère aller vers quelqu'un qui va lui dire mais non, mais moi, je ne sais pas faire, je ne suis pas capable. Parce qu'il va pouvoir lui répondre « Mais t'inquiète pas, ce n'est pas par ta force ou ta puissance, c'est par mon esprit que tu vas pouvoir accomplir ces choses. » Lorsque Dieu a envoyé Samuel pour choisir le roi David, il a envoyé dans la maison d'Isaïe, j'avais le nom anglais en tête, Jesse, mais dans la maison d'Isaïe, et Isaïe a fait défiler tous ses fils, depuis Éliab, l'aîné, le plus grand, le plus fort, jusqu'au dernier, et Dieu n'a pas choisi le plus grand, il n'a pas choisi le plus fort, il n'a pas choisi celui qui avait le plus de capacité, il a choisi celui qu'on avait oublié d'amener, celui qui était resté avec les moutons. Là. Lorsque les sept ont défilé, à la fin, Samuel est embêté, il dit mais c'est aucun de ceux-là, je ne comprends pas, Dieu m'a envoyé chez toi et c'est aucun de tes fils, il n'en manque pas un là par hasard? Ah si, on l'a laissé dans les champs, c'est le petit dernier là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des moutons, c'est pas grave s'il ne participe pas à la fête avec nous. Ben non, c'est celui-là que Dieu voulait. Lorsque l'ange a été envoyé vers Gédéon, c'était quoi la réaction de Gédéon? Ah, je savais bien que mon jour arriverait un jour. Moi, je suis capable de délivrer le peuple? Non, au contraire. Il a eu peur. Il a dit, mais ma famille, c'est la plus petite dans ma tribu. Ma tribu, c'est une des plus petites. Et c'est à moi que tu viens demander? Vraiment? T'es sûr? C'est pas celui qui était avant moi, peut-être qu'en fait on s'est croisé, tu t'es trompé de personne, non. Non, c'est lui que Dieu voulait, celui qui était le plus humble, qui venait là en se cachant pour battre le blé parce qu'il avait peur. Et à chaque fois que Dieu lui a donné une mission, chaque fois qu'il rassemblait des hommes pour faire quelque chose, non, il y en a trop, enlève-en. Non, là les milliers d'hommes ça va pas. Et puis Dieu voulait toujours moins pour faire plus. Lorsqu'il a choisi les disciples, je l'ai dit, c'est pareil, ce n'était pas des grands hommes. Et d'ailleurs, je dis pour David, il a choisi le plus petit, mais quand on le compare à Saül, souvent on s'imagine, ah oui, le petit David qui arrive pour combattre Goliath, qui ne pouvait pas porter l'armure de Saül, mais Saül, il a pas toujours eu cette carrure et cette prestance-là. Si vous remontez un peu en arrière, lorsque Samuel a été chercher Saül, au début, c'était justement le gars qui était timide, qui était dans son coin, qui était caché. C'est une fois qu'il s'est retrouvé au pouvoir que son cœur a ensuite été corrompu et que ça a dérivé. Mais lorsque Dieu est venu le chercher, justement, il avait un cœur qui ressemblait davantage, une attitude qui ressemblait davantage à ce que Dieu cherchait, celle d'un homme humble qui ne se mettait pas en avant. Alors oui, Dieu nous envoie sur des projets qui ne sont pas souvent ce que nous on aimerait. Lorsque on se projette et qu'on veut faire quelque chose pour Dieu, nous, parfois, on a envie de chercher, c'est quoi les grands projets que Dieu peut me donner? J'ai un Dieu qui est le plus grand, donc forcément, je vais faire des grandes choses pour lui. Et puis Dieu arrive vers nous et dit, non, regarde plus petit. Tu vas faire ça d'abord, ces tâches-là que les autres méprisent. Tu vas te mettre au service des autres. Jésus lui-même l'a fait, c'est lui qui s'est mis au service de ses disciples. Lorsqu'il leur a lavé les pieds, il leur a montré l'exemple en disant, mais cherchez pas à vous élever, cherchez au contraire à vous abaisser vis-à-vis des autres. Et lorsque Dieu va nous envoyer dans un projet, ça va être les faibles commencements. Comme le temple au début, lorsque les gens disaient « Mais non, ça ira nulle part, ça ne sert à rien de se lancer là-dedans. » Eh bien, Dieu va pouvoir nous envoyer, nous aussi, sur des projets qui nous sembleront peut-être faibles, petits, méprisables aux yeux des autres. Mais si c'est Dieu qui nous y envoie, ces projets, ils vont pouvoir aboutir et puis grandir même et devenir quelque chose d'aussi imposant que le temple de Jérusalem. Et j'aimerais terminer par cette pensée aussi qui est que lorsque Christ déverse son esprit sur nous, ce n'est pas pour qu'on soit ensuite un vase clos là, dans lequel cet esprit il est coincé. L'onction qui est déversée sur nous, elle a pour but ensuite de se répandre aussi aux alentours. Là, Zorobabel et Josué avaient reçu l'onction pour ensuite la communiquer aux vases et aux chandeliers qui représentaient le peuple, qui devaient rayonner de la gloire de Dieu. Et de la même manière, Christ aussi le dit dans Jean au chapitre 7, dans les versets 38 à 39, il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et au cas où on ne saurait pas de quoi il parle, Jean explique derrière en disant « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Il ne dit pas « Vous allez recevoir juste cette eau vive. » Lorsqu'il s'adressait à la Samaritaine, c'est ce qu'il lui a dit, c'est « Si tu savais qui je suis, tu m'aurais demandé à boire, et puis ça serait devenu une source d'eau vive en toi. » Mais là, c'est plus qu'une source, c'est carrément, ce sont des fleuves d'eau vive. Les fleuves, on ne les contient pas. Les fleuves, ça se déverse autour. Les fleuves, c'est fait pour couler, pour aller jusqu'à la mer. Et donc cet esprit que nous recevons, ce n'est pas pour l'enfermer là, dans un vase où on remet le bouchon dessus et puis on conserve précieusement cette huile-là. Non. Le but, c'est que cette huile continue d'abonder dans le vase pour qu'ensuite elle déborde et qu'elle se répande autour. Parce que si vous mettez l'huile dans un vase et que vous la laissez sur une étagère pendant des mois, des années, au bout d'un moment, l'huile, elle n'est plus consommable. Au bout d'un moment, elle devient rance. Non, là, l'huile que nous recevons, elle doit être constamment renouvelée. Jésus-Christ a reçu l'onction pour la déverser ensuite sur nous. Et de la même manière, lorsque nous recevons cette onction, il faut qu'elle puisse nous traverser pour se répandre autour de nous. Oui, lorsque Zacharie voit ce chandelier briller, eh bien Dieu lui montre comment le peuple est appelé à faire rayonner cette gloire en brûlant de l'huile de l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu, il est au cœur de tout le message, comme on l'a vu. C'est lui qui communique la puissance pour faire aboutir le projet, mais c'est aussi aux oints de l'Éternel qui ont reçu l'onction de le transmettre ensuite pour continuer de faire rayonner cette gloire. Alors je pense que c'est aussi quelque chose que nous devons nous rappeler. Christ a reçu l'onction pour construire son Église et il a pris chacun d'entre nous pour en faire partie. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, dans les versets 4 à 6, Christ est comparé à une pierre vivante et surtout il est dit que nous aussi nous sommes des pierres vivantes. Pierre dit « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même en tant que pierre vivante, montez les uns sur les autres pour construire l'Église. » Bon, j'en vois qu'il sourit, mais ça ne réagit pas beaucoup quand même. Non, il y a marqué « Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Laissez-vous édifier. Ce n'est pas nous qui pouvons construire l'Église. Nous ne sommes que les pierres. Les pierres, elles ne sautent pas toutes seules sur le mur pour s'empiler les unes sur les autres. C'est le maçon qui prend la pierre, qui la met à la bonne place. C'est le maçon qui ajoute le ciment, le mortier, pour que ça tienne bien en place et que ça ne bouge pas. Et là, c'est qui construit ? Pierre, il est bien placé pour dire ça aux gens, parce que c'est à lui que Jésus a dit « Tu es la pierre sur laquelle je construirai mon Église. » C'est Jésus-Christ qui construit. Alors, n'oublions pas que voilà, Jésus-Christ construit son Église. Cette construction, rien ne pourra l'arrêter. Il l'a dit à Pierre, les portes du séjour des morts ne prévendront pas contre elle. Rien ne pourra arrêter mon Église. C'est la puissance du Saint-Esprit qui l'a construit. Mais de la même manière que Christ, au travers de l'onction qu'il a reçue, a pu accomplir cette tâche extraordinaire, il nous appelle nous aussi à recevoir cette onction pour nous lancer dans les projets qu'il nous confie. Des projets peut-être qui nous paraîtront pas si grands que ça au départ, qui commenceront faiblement, humblement, modestement. Des projets que peut-être certains mépriseront en disant « Mais non, pourquoi tu fais ça? Ça ne sert à rien. » Si c'est Dieu qui me l'a demandé de le faire, ça sert à quelque chose. Je pense que ça serait intéressant peut-être de chercher dans la parole de Dieu plein d'endroits où il y a des petits détails comme ça sur lesquels on passerait, puis après, mais quand on voit l'histoire complète, on se dit, ah mais non, mais ce petit détail-là, il avait son importance, sans ça, on ne serait pas arrivé au résultat final. Oui, tout ce que Dieu nous donne à faire, ça doit être fait avec cette puissance de son esprit, non pas avec nos capacités, non pas avec nos forces, mais parce que lui nous envoie et lui nous qualifie. C'est lui qui agit au travers de nous. C'est son esprit qui agit en nous et qui ensuite peut se répandre sur les autres autour de nous. Amen. Seigneur, je te loue parce que tu nous as donné cet exemple au travers de Zorobabel et de Josué, au travers de ces hommes que tu as choisis, que tu as oints pour ton service. Tu nous as montré que ce n'est pas la puissance humaine, ce ne sont pas nos ressources, nos forces, notre intelligence qui nous donnent le succès, mais c'est ton esprit qui agit en nous. Et je te bénis parce que ce même esprit a été répandu sur Christ et que lui-même nous l'a envoyé. Lui-même nous a communiqué cette force et cette puissance. Cet esprit qui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse, nous l'avons tous reçu parce que Christ nous l'a envoyé. Alors Seigneur, vraiment, répands encore plus cet esprit dans nos vies. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à laisser cet esprit se déverser en nous, Seigneur, et à déborder à l'extérieur. Oui, Seigneur, remplis-nous de cette huile sainte, Seigneur, pour qu'elle se répande ensuite sur tout notre entourage, Seigneur, sur tous ceux que nous côtoyons, pour qu'elle puisse atteindre tous ceux que nous croisons jour après jour, Seigneur mon Dieu, et pour que ta gloire puisse rayonner, Seigneur mon Dieu, que cette flamme puisse brûler, alimentée par l'huile de ton esprit, Seigneur, et éclairer ce monde obscur dans lequel nous vivons, Seigneur. Oui, c'est ta lumière qui éclaire le monde, Seigneur, et nous croyons que par ton esprit, cette lumière peut briller d'un feu qui illumine largement autour de nous. Oui, Seigneur, fais de nous ces flambeaux qui brûlent de l'huile sainte, Seigneur. Fais de nous ces témoins qui répandent l'onction autour de nous. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Amen.